Chapitre 9e, je lève l'ancre. C'est dans les quelques semaines qui suivirent mon mariage et précédèrent mon départ de South Sea que je plantai le premier jalon de ces études psychiques destinées à révolutionner mes idées et absorber finalement toutes mes énergies. Je nourrissais le mépris ordinaire du jeune homme instruit pour tout ce qu'on a maladroitement englobé sous le nom de spiritisme. J'avais lu des histoires de médiums condamnés pour fraude, j'avais entendu parler de phénomènes contraires à toute loi scientifique établie, et je déplorais la naïveté et la crédulité avec laquelle des gens sérieux, honnêtes, pouvaient voir, dans ces misérables faussetés, les manifestations d'une intelligence extérieure à notre existence propre. Élevé comme je l'avais été, durant mes années les plus plastiques, à l'école du matérialisme médical, imbu de l'enseignement négatif commun à tous nos grands maîtres, je n'avais point de place en mon cerveau pour des théories qui allaient à l'encontre de toutes mes conclusions. Mais si mes maîtres étaient dans l'erreur, si je l'étais moi-même, je ne tiens pas moins que leur œuvre fut bonne et que leur agnosticisme victorien servit les intérêts de la race humaine, car il ébranla la position fortifiée où se retranchait avant eux, par tout l'univers, l'évangélisme aveugle. Pour rebâtir, il faut d'abord faire place nette. Il y eut, pendant l'ère victorienne, une double tendance au changement. Les uns tentèrent d'améliorer le vieil édifice pour lui permettre de durer, d'autres cherchèrent à jeter bas ce qui s'en allait en ruine, afin que l'on pût bâtir à nouveau. Personnellement, ainsi que je l'ai dit, je me cantonnais dans un idéalisme respectueux. J'admettais fort bien qu'au centre de tout il y eût une cause intelligente, mais ce qu'était cette cause et pourquoi, dans l'exécution de ses propos, elle apportait un si terrible mystère, c'est ce que je me sentais incapable de discerner. À mon sens, l'esprit, et autant que je pouvais le voir, l'âme, résultant de toutes les fonctions héréditaires ou personnelles de l'esprit, était une émanation du cerveau. Je lui attribuais une nature toute physique. Comme médecin, je voyais de quelle manière une épine d'os ou une tumeur, en comprimant le cerveau, détermine ce qui paraît être une altération de l'âme. Je voyais aussi comment les drogues et l'alcool peuvent amener des phases brèves de vertu ou de vice. L'apport physique me semblait tout-puissant. Jamais je n'avais pensé qu'un instrument imparfait ne manifestât qu'imparfaitement nos facultés supérieures. Le violon brisé ne rend pas de son, quoique le musicien reste le même. Ce qui, pour la première fois, m'induisit à réflexion, ce fut la question de la télépathie. Déjà William Barrett et d'autres en discutaient avant même que n'eût paru le monumental ouvrage de Myers sur la personnalité humaine. Le premier, qui est consacré aux questions psychiques, l'étude approfondie et la longue application cérébrale qu'elles exigent. Je ne m'étonnerai pas que l'humanité lui gardât une place permanente dans sa littérature, comme Novum Organum, à la descendance de l'homme, ou à tout autre de ses grands livres fondamentaux qui marquent une date de l'esprit. Sur la foi de mes lectures, j'entrepris des expériences touchant la transmission de la pensée. Je trouvais, pour me seconder dans mes recherches, un architecte très connu de la ville, M. Ball. Maintes et maintes fois, assis derrière lui, je dessinais des graphiques pendant que de son côté il traçait à peu près les mêmes, et je constatais qu'indiscutablement je pouvais communiquer ma pensée sans le secours des paroles. Si, à la distance de 6 pieds, je vérifiais un semblable résultat, comment l'aurais-je mis en doute quand j'eus la preuve qu'il s'obtenait de même à longue distance? Avec un sujet approprié et une sympathie plus ou moins définie entre deux individus, il ne dépendait point de l'espace. La démonstration me semblait faite. J'avais toujours juré par la science, par la nécessité de poursuivre sans crainte la vérité où qu'elle se cachât. Il m'était clair maintenant que j'avais pris une attitude trop rigide. J'avais comparé l'excrétion de la pensée par le cerveau à l'excrétion de la bile par le foie. Manifestement, c'était une proposition insoutenable. Pour que la pensée allât un millier de milles produire un effet perceptible, il fallait qu'elle différât entièrement, et non seulement en degré, mais en espèce, de tout produit purement matériel. La certitude paraissait sur ce point bien établie, et cela devait entraîner quelques modifications de mes vues premières. Vers cette époque, en 1886, la famille d'un général à qui j'avais donné des soins se prit d'intérêt pour les tables tournantes et me demanda de contrôler ses expériences. On s'asseyait autour d'une table de salle à manger sur laquelle on plaçait les mains. Au bout d'un moment, la table se mettait à osciller. Enfin, le mouvement s'accentuait suffisamment pour qu'un des pieds tapât sur le parquet. On posait alors des questions à la table, et l'on en recevait des réponses plus ou moins raisonnables, plus ou moins congrues. On les obtenait par le procédé fastidieux qui consiste, pour chaque mot, à dévider l'alphabet jusqu'à la dernière lettre que le coup de la table désigne. J'avais le sentiment que nos vouloirs réunis poussaient la table et l'arrêtaient au bon moment. J'ai été intéressé, mais sceptique. Parmi les réponses, il s'en trouvait qui n'étaient pas de vagues platitudes, mais bien des messages précis et venant des morts de la famille. Sur la famille, elle faisait grand effet, mais non pas sur moi, qui n'en connaissais pas les auteurs. J'ai sous les yeux des notes prises au cours de ces séances. Ne dites rien aux jeunes filles quand vous les verrez, mais elles vous parleront de moi. Embrassez pour moi ma fillette, je veille sur elle. Francie. Nous tâmes une vingtaine de séances, sinon plus, sans que jamais il vînt à mon adresse une communication de ce genre, et je gardais jusqu'au bout une sage réserve. Néanmoins, un problème restait à résoudre, et je continuais d'en chercher la solution. Je lus le pour et le contre, je consultais les gens éclairés, spécialement le général Drayson, penseur très distingué et pionnier de la science psychique qui habitait alors Southsea. Je l'avais d'abord connu comme astronome. Il avait émis cette thèse révolutionnaire que notre idée du cercle décrit dans l'espace par l'axe prolongé de la Terre est une fatale erreur. En réalité, d'après lui, le cercle est plus grand, il a un autre centre. Cette correction permettrait d'expliquer plusieurs points actuellement inexplicables. Elle ferait de l'astronomie une science exacte. Elle aurait des réactions très importantes sur la géologie et la connaissance des époques glaciaires dont la date n'a pu être exactement fixée. Les conceptions de Drayson avaient sur moi un grand retentissement. Elles ont été, depuis sa mort, reprises et soutenues dans plusieurs livres, notamment dans les Draysoniana de l'amiral de Horsey. Si, comme je le crois, elles triomphent, Drayson laissera un grand nom. Son opinion n'était négligeable sur aucun sujet. Quand il m'exposa ses vues et ses expériences spirites, je ne pus manquer d'en être frappé. Ma pauvreté ne me permettait pas d'employer des médiums professionnels, et faire du psychisme sans médium, c'est faire de l'astronomie sans télescope. Une seule fois, un vieil homme qui passait pour doué d'un certain pouvoir psychique vint, moyennant un modique salaire, nous donner une démonstration. Il respirait si fort après être tombé en transe que l'assistance en fut alarmée. Chacun de nous eut sa preuve. Elle fut, en ce qui me concernait, très remarquable. « Ne lisez pas Leigh Hunt, » me dit-il. J'hésitais à ce moment à savoir si je lirais ou non l'ouvrage du célèbre écrivain, le théâtre comique de la Restauration, car d'une part, c'est de la littérature, et d'autre part, je n'aimais pas l'esprit dans lequel l'auteur traitait son sujet. Donc j'avais là une preuve décisive, tout au moins en matière de télépathie. Je ne consentais pas à aller plus loin. Mais dans l'émotion que me causa cette séance, j'en écrivis un compte-rendu pour Light, le journal psychique hebdomadaire. C'est la première fois que j'affichais ma curiosité des études psychiques. Il y a de cela 37 ans, ce qui a fait de moi un très vieil étudiant. Et bien que j'aie, depuis, beaucoup lu, beaucoup réfléchi, il m'a fallu attendre jusqu'à la période la plus avancée de ma vie pour saisir la portée de ces études. Je fus, pendant un an ou deux, attiré et profondément intéressé par la théosophie. Si, en effet, philosophiquement parlant, le spiritisme semblait à l'époque un pur chaos, la théosophie se présentait comme un système fort bien conclu et raisonnable. En certains points, tels par exemple la réincarnation et le karma, elle paraissait donner un sens à quelques-unes des anomalies de la vie. Je lus les livres de Sinnett, Le monde occulte, et bientôt après, avec plus d'admiration encore, son bel exposé de la théosophie dans le bouddhisme ésotérique, qui est un ouvrage d'importance. Je fis ensuite sa connaissance, car il était un vieil ami du général Drayson, et sa conversation eut en moi des échos. Mais presque vers le même temps, le rapport publié par le docteur Hodson, à la suite de son enquête sur les faits et gestes de Madame Blavatsky à Adyar, vint sensiblement ébranler ma confiance. À la vérité, Madame Besant a depuis vigoureusement défendu Madame Blavatsky et tenté d'établir que Hodson avait pu être induit en erreur. Mais son ouvrage ultérieur, Une prêtresse d'Isis, qui reproduit quantité de lettres de la prêtresse, laisse une impression pénible, et l'ouvrage posthume de Sinnett prouve qu'il avait perdu confiance lui aussi. D'autre part, le colonel Olcott montre qu'il y avait chez Madame Blavatsky de réels pouvoirs psychiques, quelle qu'en fût la source. Mais elle ne paraissait être intéressée qu'au phénomène inférieur du spiritisme. Ses livres témoignent d'une érudition extraordinaire et d'une rude capacité de travail, là même où il ne représente qu'un transfert des conclusions d'autrui, comme c'est souvent le cas. Au bout du compte, il serait injuste de condamner l'antique sagesse simplement parce qu'elle a eu pour introductrice cette étonnante et turbulente personne. Nous également, dans notre secteur de l'occulte, nous avons eu bien des médiums malhonnêtes, mais nous nous sommes hâtés de les démasquer autant qu'il nous était possible, et la théosophie sera plus forte le jour où elle se sera détachée de Madame Blavatsky. En tout cas, elle ne saurait contenter le besoin que j'ai de preuves sérieuses. Si je devais revenir à une foi qui ne s'interroge point, je me retrouverai avec ceux dont je me suis éloigné. Mon petit succès littéraire, qui allait régulièrement croissant, le soin de ma clientèle, suffisante pour me tenir agréablement occupé, enfin mes distractions, dont je parlerai un jour, tout contribuait à me rendre l'existence commode. Un événement inattendu, en m'arrachant à mon ornière, bouleversa ma vie et mes projets. Il nous était né une fille, Marie, et la joie habitait la maison. Je n'avais jamais eu d'ambition personnelle. Mes goûts avaient toujours été des plus simples. Sans doute, ça aussi m'eût-il retenu sans fin si, en 1890, Korn avait annoncé qu'il venait de découvrir une méthode certaine pour la guérison de la tuberculose et qu'à telle date, la démonstration en serait faite à Berlin. Incontinent, je me persuadais que je devais aller à Berlin, voire faire la démonstration promise. Pour quelle raison, au juste, je l'ignorais moi-même. La chose se fut mieux comprise si j'avais été un médecin en renom et un spécialiste de la tuberculose. En fait, je portais peu d'intérêt au développement récent de l'art médical et considérais comme une illusion ce qu'on nomme le progrès. N'empêche que quelques heures plus tard, ayant bouclé mon sac, je m'embarquais tout seul dans cette étrange aventure. J'avais eu, je ne sais à quel propos, l'occasion d'échanger des lettres avec M. W. T. Stead. En passant par Londres, j'allais à son bureau de la Review of Reviews lui demander de me donner, s'il le pouvait, un mot d'introduction pour Korn ou pour le docteur Bergman, son démonstrateur. M. Stead se montra fort obligeant envers l'obscur médecin de province. Il me remit une lettre pour l'ambassadeur d'Angleterre, Sir Edward Mallet, si je ne me trompe, et une autre pour M. Lowe, correspondant du Times à Berlin. Par la même occasion, il me demanda de lui écrire un petit article sur Korn, ajoutant qu'il avait un portrait du comte Mattei pour le prochain numéro de son magazine, et qu'il donnerait celui de Korn dans le suivant. Ainsi, lui dis-je, se font suite chez vous le plus grand savant et le plus grand charlatan du monde. Stead me jeta un regard de colère. Je crois bien qu'à ce moment, Mattei et le traitement par la lumière bleue étaient sa marotte. Cependant, nous nous séparâmes bons amis, et tant qu'il vécut, nous gardâmes des rapports lointains que troubla seule une brusque collision lors de la guerre avec les bourgs. C'était un homme courageux et droit, parfois impulsif, quand il ne maîtrisait plus la flamme intérieure qui faisait de lui une grande force bienfaisante. En matière de science psychique, s'il lui arriva de commettre des erreurs de jugement, il ne fut pas moins en avance d'une génération. Je partis pour Berlin le soir même. Dans l'express continental, je me trouvai avoir pour compagnon un médecin de Londres, fort bel homme, très avenant, qui se rendait comme moi et pour le même motif dans la capitale allemande. Nous passâmes en conversation une bonne partie de la nuit. Il s'appelait Maurice. Après avoir exercé en province, il était allé se fixer à Londres, où il avait réussi comme dermatologiste dans Harley Street. De cette rencontre naquit entre nous une amitié durable. La grande affaire à Berlin fut d'assister à la conférence de Bergman, qui devait avoir lieu le lendemain à midi. J'allai voir notre ambassadeur, qui, après m'avoir fait subir une longue attente, m'accueillit on ne peut plus fraîchement et me renvoya sans aide ni pitié. Je me rabattis sur le correspondant du Times. S'il ne put m'être plus secourable, du moins sa charmante femme et lui me témoignèrent beaucoup de politesse et m'invitèrent à dîner pour le soir. Impossible d'avoir une carte pour la conférence, ni en payant, ni en invoquant l'intérêt professionnel. L'idée folle me vint de recourir à Korn lui-même. Je me rendis chez lui, où par un singulier hasard, je vis arriver son courrier, tout un grand sac bourré de lettres, que l'on vida sur le plancher du vestibule. Il y avait là une collection complète des timbres de l'Europe. Quel signe du nombre de vies brisées, de cœurs déchirés, dont l'espoir se tournait vers Berlin. Korn, cependant, restait un prophète voilé. Il ne me reçut pas, il ne recevait personne. J'étais à bout d'idées, je n'imaginais pas comment j'atteindrais à mes fins. Le lendemain, je me dirigeais vers le grand bâtiment dont on m'avait donné l'adresse, et je m'arrangeais, en graissant la patte au portier, pour pénétrer dans le hall précédant la salle où s'assemblait l'immense auditoire. Après cela, j'essayai encore de la corruption, pour que l'on me permît d'aller plus loin, mais mon individu se fâcha. Les gens passaient en foule devant moi, qui croquaient toujours le marmot à la porte. Enfin, tout le monde était entré lorsqu'arriva un groupe d'hommes bruyants et agités, Bergman en tête, barbu, formidable, traînant après lui une séquelle de médecins et de satellites. Je me jetai en travers de son chemin. « J'ai fait un millier de milles pour venir, lui dis-je. N'est-il pas possible que j'entre ?» Il s'arrêta et ses yeux, en me regardant, étincelèrent derrière ses lunettes. « Peut-être vous plairait-il de prendre ma place ?» mugit-il, en se mettant comme à plaisir dans cet état de folle excitation qui fait un si étrange contraste avec la lourdeur allemande. « La place est la seule qui reste. Oui, oui, c'est ça, prenez-la. Mes classes sont déjà pleines d'anglais. » Ce mot d'anglais, il le cracha, pour ainsi dire. J'ai su plus tard qu'un désaccord récent avec Morel Mackenzie, touchant la maladie de l'empereur Frédéric, l'avait laissé fort irrité. Je le dis avec plaisir, je ne me départis pas ni de mon sang-froid ni de ma politesse, ce sont toujours les meilleures armes contre la brutalité. « Point du tout, » lui répondis-je. « Si vraiment la salle est pleine, je ne veux pas être un intrus. » Du fond de sa barbe, il darda sur moi le feu de ses lunettes, puis il passa, et derrière lui, toute sa cour, égayée de la rebuffade que venait de subir le présomptueux anglais. Pourtant, l'un des suivants, un aimable américain, se détacha de la troupe. « Ce qu'on vous fait là n'est pas bien, » me dit-il. « Voyons, voulez-vous que nous nous retrouvions tantôt à 4 heures ?»« Je vous communiquerai les notes que j'aurai prises pendant la conférence. Je sais les cas qui vont être démontrés. Nous examinerons ensemble tout cela. » Et il rejoignit les autres. Ainsi, par une voie détournée, j'arrivai au but. J'étudiai la conférence et les cas, et loin de partager l'avis général, j'eus la témérité de conclure qu'on en était encore à la période d'expérimentation, que l'on se vantait trop tôt d'un résultat. Une vague de folie avait soulevé le monde. De partout, et notamment d'Angleterre, des malheureux couraient à Berlin chercher le guérisseur. Quelques-uns étaient dans un état de maladie si avancé qu'ils mouraient en chemin de fer. Je me sentais sur un terrain si ferme que j'écrivis au Daily Telegraph une lettre où, sauf erreur, je fus le premier à conseiller la prudence et le doute. Inutile de rappeler que l'événement me donna raison. Quand 2 jours plus tard, je rentrais à Southsea, j'étais un autre homme. J'avais ouvert mes ailes et j'avais dans quelque mesure pris conscience de moi. Surtout, j'avais été influencé par une longue conversation avec Malcolm Morris. Il m'avait démontré que je perdais mon temps en province, que mon champ d'action y était trop restreint, que je ferais mieux d'abandonner la médecine générale et d'aller à Londres. Comme je lui répliquais que je n'étais encore nullement sûr de mon succès littéraire et ne pouvais si légèrement abandonner la carrière médicale qui avait coûté à ma mère tant de sacrifices et à moi tant d'années de travail, il me demanda si je ne voyais pas une branche de la profession où je pourrais me spécialiser. À cela, je répondis que depuis quelques années, l'ophtalmologie m'intéressait, qu'à l'hôpital ophtalmologique de Portsmouth, dirigé par M. Vernon Ford, je m'amusais à corriger les réfractions et à ordonner des verres. « Eh bien, » me dit Maurice, « pourquoi ne feriez-vous pas les yeux ? Allez à Vienne, travaillez-y pendant 6 mois, puis revenez vous établir à Londres. Vous aurez une bonne vie très réglée et tout le loisir voulu pour écrire. » Je rentrai chez moi, la tête bourdonnante. Marie, notre fillette, était maintenant assez grande pour que nous puissions la confier à sa grand-mère. Donc, point d'obstacle sur mon chemin. Quant à la clientèle, elle était si petite et si strictement personnelle qu'il n'y avait pas à la vendre. Elle se disperserait à son gré, voilà tout. La Société littéraire et scientifique de Portsmouth m'offrit un banquet d'adieu. Je garde de cette société, dont j'avais été le secrétaire durant plusieurs années, force souvenirs agréables et quelques-uns de comiques. Nous entretions le feu sacré dans la vieille ville par nos journaux hebdomadaires et nos discussions des longs jours d'hiver. J'y appris à affronter le public, ce qui, dans la suite, allait être de première importance pour mon œuvre. En pareille affaire, j'étais, par tempérament, nerveux et timide, je manquais d'assurance. On reconnaissait, paraît-il, le moment où j'allais entrer dans la discussion, à ce que, sur la banquette où nous étions tous assis, mon émotion provoquait un frémissement unanime. Mais sitôt levé, je savais parler, gâcher mon trac, choisir mes phrases. Je fis à la société 3 communications, une sur les mers arctiques, une sur Carlyle, une sur Gibbon. La première me valut une réputation imméritée de chasseur. J'avais emprunté un taxidermiste local, tout ce qu'il possédait d'oiseaux, et d'autres animaux pouvant vraisemblablement se réclamer de la faune arctique. Je les avais rassemblés sur la table de la conférence, et le public, persuadé que je les avais tous abattus moi-même, me considérait avec un profond respect. Le lendemain, ils étaient tous rentrés chez le taxidermiste. Des gens bizarres venaient à nos séances. Il s'y produisait des incidents curieux. Je me rappelle qu'à la fin d'un débat très savant, sur les fossiles et l'âge des couches géologiques, un major général, qui appartenait au culte évangélique, se leva pour déclarer d'une voix caverneuse que toute spéculation était vaine, incompréhensible, puisqu'il ressortait d'un témoignage irrécusable, celui de la Bible, que le monde avait exactement 5890 ans. Sur quoi le débat fut clos et nous allâmes nous coucher. La politique m'exerça également à la parole. J'étais ce qu'on nommait un libéral unioniste, c'est-à-dire un de ces hommes dont la doctrine générale était le libéralisme, mais qui ne jugeait pas possible de soutenir Gladstone dans sa politique irlandaise. Peut-être avions-nous tort, mais c'était ainsi. Ma première apparition à une tribune m'a laissé le souvenir d'une terrible épreuve. Un grand meeting électoral se tenait à l'amphithéâtre. Le candidat, Sir William Crossman, était en retard. Pour prévenir un fiasco, on me poussa sur l'estrade. Je dus instantanément faire face à 3000 personnes. Ce fut un des moments cruels de ma vie. Je savais à peine ce que je disais. Mais je n'avais pas pour rien dans les veines une part de sang irlandais. Elle me fournit une surabondance de mots et d'images qui transportèrent l'assistance et qui d'ailleurs, à la lecture, me firent l'effet d'une bouffonnerie de réunion publique plutôt que d'un discours politique sérieux. Mais l'auditoire n'en demandait pas davantage. Quand je finis de parler, il était presque tout entier debout. Je rougis le lendemain de certaines phrases que j'avais pu prononcer, la dernière entre autres. L'Angleterre et l'Irlande sont unies par le mariage, le saphir bleu de la mer et leur bague de noces, et ce que Dieu a joint, vous ne permettrez pas qu'un homme le disjoigne. Ce n'était pas de très bonne logique, et si c'était de l'éloquence ou de l'amphigourie, aujourd'hui encore je n'en saurais décider. Je faisais partie du bureau un jour que M. Balfour vint prendre la parole à un meeting. Sitôt la salle pleine, j'allai au dehors pour le recevoir. Sa voiture ne tarda pas à paraître et il en descendit, grand, mince, aristocratique. Deux partisans notables de son adversaire l'attendaient comme moi sur le trottoir. Je les avertis de ne pas causer de trouble. Cependant, lorsqu'il apparut, l'un d'eux ouvrit pour le conspuer une bouche immense, mais rien n'en sortit, car je la lui refermais vigoureusement d'une main, tandis que de l'autre, je l'empoignais vigoureusement à la gorge. Son compagnon me porta sur la tête un coup de canne. Un des miens eut vite fait de le terrasser. Entre-temps, M. Balfour était rentré sans encombre dans la salle. L'autre secrétaire et moi l'y suivîmes tout échevelés. J'ai depuis rencontré plusieurs fois M. Balfour, mais je ne lui ai jamais dit que j'avais perdu un chapeau pour sa défense. Tant dans la société littéraire que dans les milieux politiques, mon départ fit un vide à Portsmouth. Cela est également vrai pour ma femme, qui avait gagné la sympathie de tous par l'aménité et la générosité de son caractère. Ce ne fut pas sans quelques déchirements que nous prîmes congé de nos bons amis. Mais vers la fin de 1900, le dé était jeté. Nous fermâmes pour la dernière fois derrière nous la villa du Buisson. J'avais connu des heures de privation. J'avais aussi, en 8 années de séjour, vu naître et grandir mon succès. Le passage à une existence nouvelle nous donnait aujourd'hui le sentiment d'une merveilleuse et réjouissante libération dans l'inconnu.